Eh bien, écoutez, je vous propose, voilà, on va lancer, puis comme ça, de toute façon, je vais prendre quelques secondes d'introduction pour les retardataires. En tout cas, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette table ronde qui s'inscrit dans les événements de la réouverture de notre espace permanent, le laboratoire Montagne, puisqu'il a changé de nom, ainsi que la galerie Eureka, qui s'appelle désormais Eureka Centre de Culture Scientifique. Et ce soir, c'est particulier, puisque déjà on s'inscrit dans ces festivités, et on aimerait aussi proposer des rendez-vous le vendredi soir. Donc c'est une grande première, donc on teste avec vous, et on verra si c'est une réussite ou pas, de programmer des rencontres autour de sujets scientifiques à cette heure-ci, en fin de semaine. En tout cas, merci à toutes et à tous, à nos invités d'être là et à vous aussi d'être présents ce soir. Autour du thème des transitions montagne. Transition montagne, quel défi pour l'avenir ? C'est le sujet précisément. Pour tenter d'éclairer ces questions à la fois complexes et sensibles, nous avons réuni quatre parties prenantes, quatre regards complémentaires que je vais vous présenter sans tarder. Du coup, je vais aller de gauche à droite. Xavier Baudin, donc on vous a présenté comme glaciologue. Bon, on va dire que vous êtes géomorphologue. C'est le terme plus précis. Mais vous intéressez bien sûr à tous les phénomènes de la haute montagne et de permafrost alpin. Vous êtes chercheur au CNRS et vous êtes basé au laboratoire Editem de l'Université Savoie-Mont-Blanc. Vous êtes invité, vous étiez le dernier invité de notre café débat entre midi et sciences, où vous parliez de l'engagement des chercheurs, et c'est cet aspect-là qui va nous intéresser particulièrement ce soir. À côté de vous, Cécile Trahan, vous êtes maire d'Arite et aussi vice-présidente de Grand Chambéry en charge du tourisme et du rayonnement de l'agglomération, et à ce titre, vous pilotez les politiques de développement touristique et ainsi que les actions qui visent à valoriser notre territoire. Vous allez surtout nous apporter un regard à la fois de responsable, enfin surtout votre regard de responsable politique, avec un double regard à l'échelle communale au cœur du massif des Vosges et aussi à l'échelle intercommunale pour le développement touristique de notre agglomération. Donc du coup votre vision multiscalaire va être précieuse ce soir pour les débats. Dans la suite, Xavier Thévenard, vous êtes un sportif de très haut niveau, figure majeure de l'ultra-trail. Alors, je ne vais pas énumérer l'ensemble de votre palmarès, simplement vous rappeler que vous êtes triple vainqueur de l'UTMB, une performance exceptionnelle. Vous êtes reconnu donc pour vos exploits sportifs en montagne, mais aussi pour votre engagement écologique, qui est très affirmé, et par le fait que vous mettez cette notoriété sportive au service de la cause environnementale. Et là aussi, j'aurai l'occasion de revenir sur cet aspect-là pendant les discussions. Merci aussi, Michel Chambru, d'être parmi nous. Alors, vous êtes maître de conférence en sciences sociales à l'Université Grenoble-Alpes. Donc voilà, on en a appris à Chambéry et à Grenoble. C'est l'équité. Vous êtes spécialiste des questions environnementales et des territoires de montagne, et vous étudiez depuis une dizaine d'années les controverses environnementales. Vous êtes également co-coordinateur scientifique du LABEX ITEM. Alors, les acronymes, Laboratoire d'excellence des innovations et transitions territoriales en montagne. Voilà. Et vous êtes avec Xavier, vous avez co-coordonné un ouvrage dont je parlais tout à l'heure, le glacis d'Algiros versant sensible, donc qui s'intéresse particulièrement aux controverses liées à un aménagement en haute montagne. Mais là aussi, on aura l'occasion d'en reparler au cours de nos échanges. Donc, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci, comme je vous le disais tout à l'heure, à vous tous d'être présents ce soir. Cette table ronde va durer environ une petite heure. On va dialoguer, échanger. Bien sûr, on va garder un temps pour les questions avec le public et le débat si nécessaire, ce qui nous emmènera d'un quart d'heure, 20 minutes. Voilà pour le cas. Donc nous avons, dans cette heure et quart qui nous est impartie, alors bien évidemment, il ne sera pas possible d'être exhaustif sur tous ces sujets. C'est pourquoi je vous propose de structurer quand même nos échanges autour de trois grands axes. Tout d'abord, j'aimerais que nous dressions un constat des transformations en cours dans ces territoires de montagne. Qu'ensuite, nous abordons vos différentes formes d'engagement avant de parler de sensibilisation des citoyens. Et puis enfin, ben, je propose d'évoquer quelques perspectives pour imaginer ben, la montagne du futur, d'imaginer ce qu'elle peut, les montagnes pourraient, les montagnes de demain, de ce qu'elles pourraient être. Voilà pour cette présentation. Je vous propose d'entrer directement dans le vif du sujet. Les montagnes sont aujourd'hui présentées par la communauté scientifique comme de véritables sentinelles du climat. Alors, selon vos expériences respectives, qu'est-ce qui permet d'affirmer qu'elles se trouvent aux avant-postes des transitions en cours? Je vais commencer peut-être à préciser ma question auprès de Xavier Bodin, puisque en tant que glaciologue, on va dire géomorphologue, quelles sont les transformations majeures qu'on peut observer ou mesurer en haute montagne?
Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'invitation, merci pour la question. Donc, pour ce qui concerne, on va dire, le milieu naturel, hein, qui est plus l'élément que je connais, que j'étudie, et en particulier un élément propre à la haute montagne qu'on appelle la cryosphère, qui regroupe tout ce qui concerne la glace en surface, c'est-à-dire les glaciers, la glace en profondeur, c'est-à-dire le permafrost, plus des éléments qu'on va dire saisonniers, qui est essentiellement la neige. Donc ces trois éléments constituent ce qu'on appelle la cryosphère, et par sa nature même, c'est quelque chose qui est évidemment fortement, éminemment sensible aux évolutions climatiques. Donc à ce titre-là, c'est vrai qu'on peut la voir comme un élément sentinelle. Les glaciers, bon, tout le monde a en tête le fait que leur retrait est prononcé, de l'ordre de 50% de disparition en surface, 60% en volume entre la fin de la dernière période froide, on va dire, qui ont été la période de Moyen Âge jusque 1850, période qui était favorable au développement des glaciers. Développement des glaciers qui ont eu des impacts, on va dire, pour les territoires, notamment quand les landes glaciaires descendaient jusqu'au fond des vallées et impactaient les cultures ou les hameaux. Donc, retrait des glaciers, disparition d'une emblème, d'un icône, un peu un paysager à travers ça. Retrait aussi d'un élément plus invisible qu'on appelle le permafrost, donc les sols gelés en permanence, qui en gros affecte autant les parois rocheuses de haute altitude, type ce qu'on voit dans le massif du Mont Blanc, le piton de l'aiguille du Midi par exemple est complètement pris dans le permafrost, c'est-à-dire que toutes les fractures qu'il contient sont scellées par de la glace. Mais on trouve aussi du permafrost à plus basse altitude, enfin basse relativement, disons 2500 mètres. Et là, c'est plutôt des éboulis qui sont scellés par la glace, glace qu'on voit jamais, parce qu'en général, elle a plusieurs mètres de profondeur. Néanmoins, elle est là, elle est bien présente. Ses propriétés physiques font que les paysages se retrouvent marqués par la présence de cette glace dans ces éboulis, notamment par des éléments de paysage qu'on appelle des glaciers rocheux, sur lesquels, me concernant, je travaille plus spécifiquement. Donc tous ces milieux, ouais, sont fortement... subissent une évolution forte, évidemment, vu qu'ils dépendent très directement de paramètres climatiques, la température en particulier, l'enneigement et les niveaux de précipitation aux échelles saisonnières.
Merci. Vous parlez de paysage. J'ai envie de compléter la question en me tendant vers l'autre Xavier Thévenard. On va partir dans le Jura, puisque vous êtes originaire de ce massif montagneux. Dites-moi ce qui vous a changé, puisque vous parcourez la nature depuis très longtemps. Qu'est-ce que, pour vous, dans votre pratique sportive, dans ce lien avec la nature, qu'est-ce que vous avez vu changer ces dernières années ou au cours de ces 30 dernières années?
Bonsoir à toutes et tous. Nous, dans le Jura, on est sur le premier fond concernant le dérèglement climatique, parce que l'évolution, elle est nettement visible, notamment sur l'hiver, juste avec la quantité de neige qui est très aléatoire. Moi, je suis moniteur de ski de fond aussi l'hiver. Donc, c'est de plus en plus compliqué pour pratiquer. Et puis aussi, par rapport à la crise du scolyte actuellement, où il y a beaucoup de forêts d'épicéa et de sapins qui sont en train de sécher sur pied. Ça induit aussi, comme sur l'année 2022 avec la grosse sécheresse, des feux de forêt. Je pense que personne n'aurait pu penser un jour qu'il y aurait eu des feux de forêt dans le Jura, parce que c'est quand même réputé pour être humide et frais. Donc ça, c'est des conséquences qui sont clairement visibles aussi, et ça fait bizarre. Surtout que nos pompiers dans le Jura sont pas forcément formés à ça. Et voilà, quelle sera la tendance à l'avenir quand on voit un petit peu les projections et les scénarios basés sur le rapport du GIEC. Bon ouais, ça fait un peu peur quand même. Mais donc du coup, ça c'est nettement visible si on a un petit œil observateur, le fait de faire plusieurs kilomètres, que ce soit en ski de fond ou en courant dans le milieu naturel, sur le massif de moyenne montagne dans le Jura, c'est si on voit pas, c'est qu'on regarde ses pieds quoi.
Et plus proche de chez nous, je me tournais auprès de Cécile Trahan dans notre territoire. Alors peut-être parce que il nous concerne tous, toutes et tous, donc j'aimerais bien que vous présentiez un petit peu plus ce territoire de Grand Chambéry qui est assez singulier puisqu'il est à la fois à la ville et à la montagne.
Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, je vais refaire une présentation rapide du territoire de Grand Chambéry, même si je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Donc c'est 38 communes. La plus petite, c'est Doucy-en-Beauge, avec à peu près 80 habitants. Et la plus grosse, Chambéry, la plus importante, avec 60 000 habitants. L'agglomération, c'est 140 000 habitants en tout. C'est un territoire qui s'échelonne de 241 mètres d'altitude à 2217 mètres, avec le plus haut sommet qui est donc l'Arcalo. Donc vous voyez que les enjeux sont vraiment différents en fonction des parties du territoire. 525 km², dont 9,2 sont urbanisés. Nous avons 24,8% de terres agricoles et pas autant que dans le Jura, mais quand même 57,3% de forêts sur notre territoire. Donc, comme vous l'avez dit, effectivement, nous aussi, notre forêt, elle souffre, elle est scolitée, et c'est vrai que c'est une problématique aujourd'hui, et aussi les questions d'incendie, puisqu'on en a eu sur le Mont-Saint-Michel et sur le Semnose il n'y a pas très longtemps. On a deux PNR, deux parcs naturels régionaux, donc celui du Massif des Bauges et celui de la Chartreuse, puisque nous avons des communes de nos agglomérations qui appartiennent à chacun de ces deux parcs. Et puis nous avons deux stations de sport d'hiver, donc Hayon-Margeria et Savoie-Grand-Revard.
Xavier Thévenard évoquait justement une évolution dans sa pratique, notamment au niveau du ski, qui était obligé d'évoluer. Est-ce qu'au niveau justement de ces activités touristiques portées particulièrement sur le sport d'hiver, est en cours d'évolution? Est-ce qu'on peut mesurer cette évolution?
Oui, je pense la plus importante, c'est que donc on a dû prendre l'hiver dernier la décision de fermer la station qu'on a plaît Hayon 1000, donc c'est-à-dire la partie basse de la station d'Hayon-Margeria. Donc on a décidé effectivement d'arrêter totalement l'activité du ski alpin. Donc là, je pense que c'est une belle preuve des différents changements climatiques.
Michael, en tant que sociologue, quel regard vous pouvez porter un petit peu sur ces évolutions sur nos territoires, peut-être en termes d'activité ou en termes peut-être de perception de nos concitoyens?
Eh ben déjà, bonsoir à toutes et à tous. Du coup, pour répondre et puis rebondir sur les précédentes interventions, aujourd'hui, l'enjeu principal, si on se place du point de vue des sociétés humaines, c'est de réfléchir à envisager comment on pourra continuer à vivre en montagne. Quand je dis vivre en montagne, c'est habiter et travailler en montagne dans un contexte d'accentuation des effets du changement climatique, en prenant en considération notamment les effets écologiques de ces changements climatiques, ce qui a été évoqué par les principaux intervenants intervenantes. Et ça, c'est pas évident. C'est pas évident. Pourquoi? Parce qu'un des effets qui a déjà été là indiqué, notamment pour les territoires qui dépendent fortement du tourisme de neige, c'est la mise en crise de ce modèle du tourisme de neige. Et globalement, vous avez un certain nombre de territoires de montagne et du coup des habitants et habitantes qui y vivent, dont l'activité économique dépend fortement de cette activité économique. Et donc il faut se réinventer. Alors il y a des territoires qui sont moins dépendants du tourisme de neige, mais qui vont l'être aussi du tourisme, qui posent aussi une autre problématique. Et donc du coup, tout l'enjeu, on sait que ces effets vont s'accentuer. Et donc tout l'enjeu, c'est comment on arrive à anticiper cette bifurcation nécessaire plutôt que de la subir. Et souvent, quand on subit ces situations, ça va être des problématiques sociales environnementale assez compliquée pour toutes et tous. Et quand je dis ça, je pense notamment, et Xavier, tu l'as évoqué juste un petit peu avant, quand on vit dans un territoire, notre activité, par exemple, une partie de notre activité économique dépend directement du tourisme de neige. Comment je travaille ma reconversion professionnelle, qui, dans certains endroits, c'est quasiment du jour au lendemain où on vous annonce la fermeture d'une station. Donc, en plus des enjeux culturels, de nos imaginaires qui sont à travailler, il y a des réalités matérielles très concrètes sur tout un tas de personnes. Et la question que ça peut aussi poser, et si on raisonne ici à Chambéry, c'est comment on réinvente aussi des nouvelles solidarités entre le haut et le bas, donc entre les plaines et la moyenne montagne, ou voir si on va plus en Maurienne ou en Tarentaise, avec la haute montagne. Et ça, c'est aussi un enjeu très fort.
Une question peut-être que j'ai posée à vous quatre avec vos regards différents, c'est plutôt par rapport au conflit d'usage, parce que justement on a une transformation du paysage, une transformation des ressources, je pense à la ressource en eau, on a parlé de l'agriculture, et du coup on se rend compte que finalement l'eau on en a besoin, peut-être pour les canons à neige, mais les agriculteurs en ont besoin pour soit pour l'agriculture, soit pour l'élevage. Donc est-ce que, alors il y a peut-être toujours eu ce genre de conflit, mais est-ce qu'ils sont en augmentation, ou finalement est-ce que cette solidarité que vous évoquiez Michael, elle prend son sens? Est-ce qu'on en est déjà là ou pas encore?
C'est pas qui commence?
Ouais, si tu veux.
Alors oui, il y a toujours eu historiquement des conflits d'usage autour de la ressource en eau en montagne. Alors moins dans les Alpes du Nord que dans les Alpes du Sud. Je pense notamment autour de la, pour celles et ceux qui connaissent les Hautes Alpes, autour de la Durance. Voilà, historiquement c'est quelque chose d'assez long. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, effectivement, c'est une accentuation de ces conflits. Pourquoi? Parce que il y a une raréfaction de la ressource en eau et une augmentation du besoin en eau. Donc, nécessairement, il va falloir faire des arbitrages. Et la question, c'est qui fait ces arbitrages? Donc, ça pose une question démocratique, comment on décide, et du coup, qu'est-ce qu'on priorise? Et cette accentuation de la tension sur l'eau, elle est d'autant plus vive, notamment dans les territoires qui sont très touristiques. Pourquoi? Parce que c'est des territoires où vous avez des fluctuations de population de 1 à 10. Et par exemple, des besoins en eau potable beaucoup plus importants. Si en plus vous êtes dans un territoire qui est calcaire, par exemple, qui a du mal à garder la ressource en eau, ça devient encore plus compliqué. Si sur ce même territoire, vous y mettez des stations de ski alpin dont il y a un besoin croissant d'enneigement artificiel, si en même temps vous y mettez en plus de l'agriculture, par exemple de la production de reblochons ou de tomes d'ébauche pour stigmatiser personne, oublier personne, voilà, et ben ça devient compliqué et ça va s'accentuer. Et à un moment donné, il faudra faire des choix.
J'ai une question en termes sur celui du laboratoire, parce que c'est plutôt pour Cécile sur le. Est-ce que la montagne ne serait pas, enfin cette moyenne montagne qui est l'ébauche, parce que l'économie du ski elle est importante, mais peut-être moins que sur des secteurs plus hauts. Est-ce que l'ébauche ne pourrait pas être une espèce de laboratoire naturel pour pouvoir justement étudier ces transitions, puisque finalement j'ai l'impression que les activités restent relativement équilibrées, mais là vous allez me le confirmer ou me l'affirmer.
Oui, effectivement, je suis très heureuse que vous nous donniez cette idée. Et effectivement, moi, je pense que le territoire du massif des Bauges, c'est un lieu expérientiel, dans tous les sens, parce que je pense que c'est un territoire où justement on peut même au plan sportif, commencer une activité sans forcément être tout de suite dans un haut niveau, aussi bien au niveau de la randonnée que de l'escalade, que du ski alpin, enfin voilà. Mais aussi, je pense que c'est effectivement, ça pourrait être un territoire expérientiel sur toutes ces transitions, parce qu'aujourd'hui, ce qui nous arrive dans nos stations de moyenne montagne, ça va arriver dans les stations de plus haute altitude, dans peut-être pas très longtemps, et je pense qu'aussi il pourrait y avoir aussi une solidarité entre les stations qui sont en plus haute altitude et qui bénéficient encore aujourd'hui du modèle économique du ski, que nous on a beaucoup moins, et qui pourrait quand même nous aider en termes d'expérience et peut-être aussi un peu financièrement, parce que c'est vrai que les communes support, en tout cas dans le massif des Bauges, des activités touristiques, sont des petites communes avec peu de moyens. Donc même si aujourd'hui l'agglomération de Grand Chambéry, dans le cadre de son schéma de développement touristique, avait un axe qui était le mieux accueillir et a donc créé un fonds de concours qui permet de soutenir les petites communes dans leurs investissements d'aménagement, eh ben voilà, c'est aussi un point important. Et il faut savoir aussi que je pense que justement l'aménagement et la pédagogie, c'est quand même très important par rapport à toutes ces questions de conflits d'usage. Parce que c'est comme ça que, à mon avis, on pourra essayer d'améliorer les choses. Conflit d'usage avec les habitants, avec les agriculteurs, avec les forestiers, et voilà. Et aussi, ben, bien sûr, il y a toute la question de la ressource en eau. Nous, on est dans un massif karstique, donc on a effectivement cette problématique.
D'accord. J'ai un peu la même question que je suis posée à Xavier Thévenard, puisque c'est l'autre montagne, le Jura, y a-t-il aussi des conflits entre l'agriculture, l'activité sportive les activités sportives, parce qu'on pourrait parler de différentes, on peut parler de la neige, mais aussi votre activité sur le trail, qui génère parfois des compétitions impactantes, ça peut arriver.
Oui, alors je connais pas tout l'historique par rapport au conflit d'usage, mais la question de l'eau, en tout cas, elle se pose peut-être un peu moins, parce qu'on a un domaine plutôt lié en ski, sur le ski nordique que le ski alpin. Et surtout le besoin d'eau, il est surtout utilisé pour le ski alpin. Et pour faire de la neige de culture par exemple, il faut déjà des températures qui sont froides, et des fois c'est pas forcément le cas. Et comme c'est aussi un sol karstique et on a besoin d'eau pour autre chose, et on n'a pas des sites nordiques qui sont alimentés avec de la neige de culture, et quand il n'y a pas de neige, il n'y a pas de neige, et voilà, donc l'eau s'infiltre et ça va un peu plus bas. Mais après, oui, bah, sur le trail, on a une réserve nationale sur la haute chaîne du Jura. Du coup, il y a des zones de quiétude, donc il y a aussi des endroits à respecter. On n'a pas le droit de passer parce qu'il y a une faune, une flore à protéger. Et souvent, en plus, comme il y a moins de neige actuellement, les pratiquants de sport d'endurance vont surtout faire de la course à pied plutôt que du ski. Et à ces périodes de l'année qui peuvent être compliquées pour des animaux, vont pas forcément respecter les règles. Et ça, c'est quelque chose de plus nouveau, parce que le trail s'est quand même bien démocratisé avec beaucoup d'engouement pour la discipline. Et donc là, moi, je connais bien beaucoup d'agents à la réserve, et puis on essaie de mettre des choses en place justement pour faire prendre conscience aux pratiquants de trail qu'il y a des habitants dehors à l'année, des animaux, et puis qui peuvent être dérangés par l'activité humaine. Donc voilà, c'est des conflits d'usage, ils peuvent être ici aussi, mais pas par rapport entre hommes et hommes, mais aussi par rapport à la faune et la flore locale.
Merci. Xavier, là, dans les premiers échanges qu'on a eus sur ce constat, on a évoqué les conflits d'usage. Ce qui revient, c'est on est en train d'expliquer que c'est lié à des phénomènes des changements climatiques. La littérature nous explique que les montagnes sont beaucoup plus sensibles, que l'augmentation des températures, elle se fait deux fois plus rapidement qu'ailleurs. Alors, comment on explique ce phénomène?
Comment on explique que
que les montagnes se réchauffent deux fois plus vite? Alors, est-ce que déjà scientifiquement c'est vrai de le dire? Et si c'est vrai, comment on l'explique? Pourquoi les montagnes sont beaucoup plus sensibles?
Alors, je ne sais pas si la valeur est de deux fois plus vite que les autres terres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est des milieux comme les milieux arctiques qui avaient à leur surface beaucoup de terrain avec une couverture neigeuse ou glaciaire, et du coup la disparition de cette couverture blanche qui réfléchit le rayonnement solaire amène à un surplus d'énergie, on va dire, dans le système régionalement, ce qui peut conduire à cet effet de suraugmentation des températures. C'est un effet classique de bilan d'énergie à la surface de la Terre, on va dire.
D'accord. Néanmoins, ces territoires de montagne vont en souffrir peut-être beaucoup plus, vont aussi peut-être venir, on a évoqué souvent le mot de laboratoire, donc ça permet peut-être d'expérimenter un certain nombre de choses. Et ce qui était intéressant de vous inviter tous les quatre ce soir, c'est de vos engagements personnels dans vos fonctions respectives. Et du coup, j'ai envie de commencer par Xavier Thévenard, par vous, pour que vous nous parliez un petit peu de votre engagement en tant que sportif. Alors, vous êtes un grand sportif, on l'a dit à plusieurs reprises, mais ce qui m'intéresse, là, c'est vraiment cette implication environnementale. J'aimerais bien que vous nous en disiez quelques mots, et comment ça, pour les gens qui ne vous connaîtriez pas, pour nous réexpliquer comment ça se présente.
Il y a plusieurs années en arrière, j'ai pris la décision de ne plus prendre l'avion pour aller courir à l'autre bout de la planète. parce que voilà, j'ai lu plusieurs bouquins et certains d'entre eux m'ont fait prendre conscience en fait que l'aviation était bien trop délétère. Puis c'était comment j'ai compris qu'à partir de ce moment-là, je participais à la destruction d'un environnement qui me procurait du bonheur, parce que moi, ce que j'aime avant tout dans ma pratique du trail, c'est de parcourir la montagne et puis observer ces paysages, de contempler la beauté de ces paysages. Et en fait, quand j'ai compris que l'aviation avait un impact très important sur notre environnement, j'étais plus du tout à l'aise avec ça, et c'est pour ça que j'ai renoncé à ça. Et après coup, j'ai vu que des avantages, puisque j'avais pas d'argent à débourser dans des billets d'avion, je passais plus de temps avec mes proches, j'avais pas les effets délétères du jet lag, donc c'était que bénéfique. Et j'ai fait des trucs un peu plus local, mais voilà, donc quand on regarde toutes ces vallées alpines, on n'a jamais d'une vie pour tout faire. Dans le Jura, je découvre encore plein de chemins, alors pourtant j'y ai parcouru en long, en large, en travers. Donc voilà, c'est un peu avec en bouquinant et puis en comprenant un petit peu dans quel monde on vivait, ça m'a fait déclic.
J'allais venir à cette question. Demain, on a un spectacle qui s'appelle Point de bascule, et j'allais vous demander, mais quel a été votre point de bascule, c'est-à-dire à quel moment cette sensibilité, vous avez acquis cette sensibilité et cette envie de rentrer dans l'action.
En fait, moi j'ai vécu dans le Jura de toute mon enfance, dans un petit bled qui s'appelle les Plans d'Automne, où on est au milieu de nulle part, donc déjà très en lien avec le milieu naturel, toujours été un peu militant, mais que ce soit au collège ou au lycée, et puis en grandissant on comprend dans quel monde on vit, et puis on a envie de passer un peu plus à l'action, donc c'est fait au fur et à mesure, ça n'a pas été radical d'un seul coup. Vraiment, les bouquins qui m'ont fait percuter, c'est celui d'Aurélien Barraud, Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité, et puis Comment tout peut s'effondrer de Pablo Servigne. Et après ça, j'ai fait un mois de morale dans les chaussettes, et puis c'est là où j'ai dit non, je peux plus faire ça. Ouais.
J'ai aussi cette question sur l'engagement à nos deux chercheurs, parce que donc on a déjà invité Xavier la semaine dernière pour justement sur ces questions-là, parce que ce qui nous intéresse, c'est quel est le rôle du chercheur ? Doit-il se contenter de nous fournir des chiffres, des données, et à nous de nous en emparer ? Ou au contraire, le chercheur doit militer, s'engager ? Et cette question, je la pose à la fois à Xavier et à Michael, d'autant plus que vous avez collectivement sorti ce livre où il y a 18 chercheuses et chercheurs qui aussi ont collaboré et qui s'engagent, en tout cas qui apportent un regard sensible plus que technique sur les aménagements sur de ce glacier de la Girouse. Alors, ce sera la même question pour vous deux, lequel se lance ?
Je vais commencer. Déjà pour moi, être chercheur, faire de la recherche scientifique, et notamment quand on est sociologue, c'est déjà une forme d'engagement. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que nous, notre travail, ce pourquoi on est payé, c'est produire des connaissances sur ce qui se passe aujourd'hui dans la société, du coup dans le monde, avec comme objectif d'interroger les idées reçues, le sens commun, ce qui paraît évident, ce qui va de soi, pour essayer d'en comprendre la complexité. Donc nous, on essaye d'aller chercher la complexité des problèmes auxquels on est, vous êtes, on est tous confrontés. Et ça, on ne le fait pas comme ça, au doigt mouillé, on le fait par là où les méthodes scientifiques, donc par une méthodologie, une façon de travailler pour essayer d'objectiver ce à quoi on est confronté. Et ensuite, de le partager. De le dire publiquement, y compris quand ça dérange, y compris quand certains habitants ne veulent pas l'entendre, quand les décideurs politiques ne préfèrent pas être confrontés à ce discours-là. Et ça, c'est notre travail de chercheur, et intrinsèquement, voilà, il est engagé. Et si je donne un exemple pour illustrer notre propos par rapport à ce qu'on a déjà discuté, si je prends l'activité du tourisme de neige pour du coup rester en montagne, et on le voit déjà dans les moyennes montagnes aujourd'hui, on va avoir une activité économique liée au tourisme de neige qui va être décroissante. Voilà, donc ça, c'est déjà ce qui s'opère et c'est ce qui va s'opérer. Donc ça, c'est ça, on est capable de le quantifier, de l'objectiver. Et donc du coup, la question que ça pose, et y compris par rapport à tous les discours politiques qu'on entend des personnes en responsabilité, c'est maintenant comment on organise cette décroissance de l'activité économique autour du tourisme de neige pour repenser d'autres activités économiques et surtout pour qu'elles soient le plus juste socialement. Voilà, ben ça c'est ce que nous on peut dire en tant que chercheurs. Et ça c'est une première forme d'engagement. Et la deuxième, et puis après je laisserai Xavier reproduire, c'est que la plupart des chercheurs qui travaillent autour de ces questions de transition des territoires de montagne, des questions d'aménagement des enjeux écologiques autour de la montagne, c'est qu'on est toutes et tous attachés à ces territoires. Soit parce qu'on y habite, par exemple, soit parce que quand on y travaille, on y passe du temps, on voit, un peu comme le disait Xavier, les transformations se faire d'année en année, parce que souvent, on revient un an, deux ans, trois ans, des fois sur 10 ans aux mêmes endroits, et on les voit aussi se transformer. Ouais, et donc ça, on a envie de préserver ces espaces, ces endroits. Et quand vous travaillez pas uniquement sur des cailloux, des plantes, mais si vous travaillez, quand vous faites de la géographie ou de la sociologie avec les habitants et les habitantes, bah vous avez aussi envie de, que les personnes avec qui vous avez noué des relations puissent continuer à vivre, travailler et habiter dans ces endroits.
Xavier ?
De mon côté, on va dire qu'il n'y a pas eu vraiment de bascule non plus, enfin si je peux évoquer cette forme... cette idée pour parler d'engagement. Par contre, donc moi je travaille sur la haute montagne, qui est un milieu plutôt dépourvu d'activité humaine, on va dire d'une façon générale. Enfin, c'est pas des lieux où on vit, quoi. Par contre, c'est des lieux. Alors, si je le reformule, il y a des activités humaines, mais c'est pas des lieux où on vit. Et parmi les activités humaines auxquelles j'ai eu à me confronter en étudiant des milieux de haute montagne, la première activité qui m'a le plus choqué, on va dire, c'était quand j'ai eu un temps où je travaillais sur les Andes entre le Chili et l'Argentine, c'est qu'il y a un secteur très riche en glaciers rocheux, ces formes que je vous évoquais tout à l'heure, qui sont mon dada scientifique. Cette partie des Andes centrales du Chili, à la latitude de Santiago et Mendoza, pour ceux qui connaissent, c'est une zone très riche en termes miniers. Et donc il y a une industrie minière forte depuis assez longtemps, avec depuis une quinzaine d'années un regain d'activité. Et ça a correspondu en gros à une fenêtre temporelle sur laquelle moi je travaillais sur ces milieux. Et du coup je les ai on va dire j'ai observé les impacts d'une activité humaine qui est la clé de pas mal d'autres activités qui structurent nos sociétés, notamment ici dans les pays, on va dire les plus développés. Et j'ai non seulement pu la voir, mais je l'ai quantifié, j'ai cherché à comprendre quel impact ça avait sur le milieu. Et puis en fait, j'ai pas pu quelque part m'empêcher aussi de me questionner sur quelles sont les conditions sociales qui permettent qu'on porte atteinte à ce point-là à des milieux. Parce que là, je parle de phénomènes qui enlèvent des kilomètres cubes de rochers pour les broyer, pour les passer dans des bains d'acide, pour en sortir... 0,6% de volume en métal. Donc il faut tout ça.
Les fameuses terres rares.
Là, en l'occurrence, c'était de l'argent et de l'or. Mais pour le site sur lequel je me suis plus particulièrement intéressé, quoi. Puis après, en résonance avec ça, plus récemment, c'était inévitable que sur les hautes montagnes françaises, à un moment ou à un autre, mes collègues et moi, on soit interpellés quelque part par l'activité, on va dire, d'aménagement produite par l'industrie du ski. Alors quand je dis industrie du ski, c'est pour dire que parler des grosses stations de ski qui ont une capacité de façonner les paysages. Alors c'est pas façonner, le terme est un peu faible à mon avis, parce que c'est beaucoup de terrassement, etc. Donc ça, ces terrassements, c'est des choses que nous auxquelles on s'intéresse parce que ça a une dynamique géomorphologique qui est vraiment au cœur de mon activité. Et voilà, c'était aussi une autre manière à partir d'observation, on va dire, d'un milieu naturel sous un angle de scientifique qui est purement naturaliste, de s'interroger sur la société et en l'occurrence, on va dire l'emprise du tourisme sur ces territoires de savoyards pour ceux auxquels je m'intéresse.
Cécile Tran, j'ai commencé, ça va être une double question. Ma première question va être plus personnelle hein, sur votre engagement, mais tout de suite, je vais rebondir par rapport aux propos de Michael et Xavier, puisqu'à chaque fois, on invoque les prises de position politiques. Et donc là, du coup, ça nous intéresse de savoir comment Grand Chambéry se situe sur ces enjeux.
Alors, Grand Chambéry essaye de mettre en place des politiques publiques. Donc, y a un schéma de développement touristique 2024-2030 qui a été voté assez récemment, où il y a plusieurs axes, justement pour essayer d'aller dans ces diverses directions. Donc, le premier axe, c'est le tourisme durable multisaison, la complémentarité vallée-montagne, dont je pense on a parlé déjà un petit peu, qui est effectivement un atout. Notre marque de destination Chambéry-Montagne, puisque donc on a Grand Chambéry à un office du tourisme et une marque de destination qui s'appelle Chambéry-Montagne. Donc on souhaite développer cette marque Chambéry-Montagne et que tout le monde, les habitants, les socio-professionnels notamment, puissent s'investir de cette marque. Et puis le quatrième axe qui est le mieux accueillir. Et puis il y a un deuxième outil, si je puis dire, qui est le PCAET, le plan climat air énergie territorial, donc 2026-2031, qui va être voté lors du prochain conseil communautaire, avec pareil un plan en 5 axes qui définit les politiques publiques pour les années à venir, donc mieux se déplacer, mieux produire et mieux consommer, mieux occuper le bâti et la ville, mieux protéger et valoriser les ressources. Là, je pense notamment la ressource en eau, qui, on l'a déjà dit, est quand même un point très important. Et le cinquième axe, plus engagé. D'accord. Alors, je rebondis sur le plus engagé. Donc, moi, ça fait 30 ans que j'habite le massif des Vosges, que j'habite à Rite. J'adore mon territoire. Dans ma vie précédente, j'ai tenu donc pendant 15 ans un gîte auberge à Harit. Je l'ai créé et je l'ai tenu. Et déjà à l'époque, j'étais très heureuse, et c'était un peu mon objectif, de faire partager aux gens qui venaient dans notre maison, dans notre gîte auberge, partager la connaissance de notre territoire, faire découvrir aux gens ce qui s'y passait. Et partager aussi lors des repas les produits du terroir. C'était vraiment local. cette envie de partage et de faire découvrir ce territoire, je me suis dit à un moment, ça va peut-être pas être suffisant. Donc, je vais essayer de m'engager un peu sur ma commune pour essayer d'avoir des actions peut-être un peu plus concrètes. Et donc, en 2014, j'ai commencé mon premier mandat, j'étais adjointe. Et en 2020, j'ai donc été élue maire pour ce mandat qui va bientôt se terminer, d'ailleurs. Et ça a commencé très fort, parce que ça a commencé avec le Covid. Et donc, tout de suite, à la sortie du Covid, on a eu un peu la problématique à Harit, d'un afflux de personnes qui avaient besoin de venir prendre l'air et se reconnecter un peu avec la nature. Et là, on a commencé à rentrer un peu dans les problématiques justement de conciliation des usages, parce que les gens qui venaient, il fallait leur expliquer certaines choses et certaines façons de faire dans la nature.
Voilà, c'est pas parce qu'on va en montagne qu'on est forcément sensible à la nature. Ma question, c'est vous, en tant qu'élu de terrain, élu de proximité, vous côtoyez les habitants, quel est leur niveau de sensibilité ? Est-ce que c'est quelque chose qui vraiment leur prend aux tripes ? Ou au contraire, c'est quelque chose dont il n'est pas encore question aujourd'hui ? Ça va me permettre d'aborder ce volet de la sensibilité. Comment sensibiliser justement les citoyens à ces grands enjeux des transitions ?
Alors, je dirais que les habitants, c'est assez... ça dépend. Il y a des habitants de ma commune qui sont très sensibilisés et puis d'autres à qui il faut quand même expliquer et qui ont du mal à réaliser les changements. Mais moi, c'est plutôt... j'ai plus d'expérience avec les gens qui viennent visiter notre territoire. Et donc là, c'est plus en fait sur... les règles entre guillemets, qu'il faut respecter quand...
Donc il y a cet aspect réglementaire qui est important. Est-ce qu'on peut jouer autrement, peut-être, Xavier Thévenard, quand on est sportif de haut niveau et qu'on a cette notoriété, est-ce que ça peut être un levier pour sensibiliser les plus jeunes justement à ces notions environnementales qui sont peut-être pas forcément évidentes pour le public par méconnaissance peut-être?
Oui, moi j'essaie de faire au travers de mes réseaux de prendre la parole sur ces sujets. Après, je suis aussi animateur de la fresque du climat, donc j'anime pas mal de fresques en co-animation avec un ami, mais on fait dans différents des groupes de sportifs, des écoles. On a même fait une fresque une fois au ministère des Sports avec Amélie Oudéa Castera et tous ses conseillers, donc c'était assez sympa. Et puis donc je pense que voilà, c'est vraiment un super outil de sensibilisation pour bien comprendre les enjeux et puis aussi les ordres de grandeur quoi, et puis amener les solutions à l'échelle individuelle et collective. Et donc voilà, et puis après c'est vrai que d'avoir une certaine il y a du bon et du mauvais d'être sur les réseaux sociaux, mais du coup d'avoir une grosse communauté aussi, de prendre la parole sur ces sujets, je pense que voilà, ça peut sensibiliser les gens sur ce sujet. Ouais.
Et pour les chercheurs, parce que vous êtes en contact avec les étudiants quasiment au quotidien, ce sont des jeunes qu'on peut sensibiliser. Est-ce qu'il y a d'autres leviers, comme vous êtes deux chercheurs engagés, que vous mettez en avant ou qui existent et que vous pourriez développer ou que vous aimeriez développer?
Alors moi je suis pas enseignant chercheur, donc c'est vrai j'ai pas une pratique très très poussée avec les étudiants de mon université. Néanmoins c'est vrai que ces dernières années là je fais quand même des enseignements d'une façon assez libre et en même temps assez ponctuelle. Ce qui fait qu'à chaque fois ça me demande quand même pas mal de travail de préparer mes cours, mais j'ai pris le parti ces dernières années en tout cas d'évoquer voilà, ces éléments de mon parcours qui amènent à s'engager, d'évoquer des doutes, y compris des doutes sur la science elle-même, pas tant dans sa démarche, dans ses fondements un peu qui permet de faire fonctionner la science, mais plutôt dans son rôle dans la société et dans certains travers qu'il peut y avoir dans le fonctionnement de la science, travers qui peuvent aller vers l'accélération de certaines dynamiques, que ça soit émissions de gaz à effet de serre les impacts sur les ressources naturelles ou en termes d'énergie quoi. La science quand même contribue malheureusement par cette volonté d'innovation qui nous est souvent imposée, contribue aussi en partie à ce problème. Du coup ça c'est des éléments effectivement que pour ma part j'essaie de mettre autant que possible dans mes contenus d'enseignement.
Michael, vous ne pouvez pas vous botter en touche parce que vous êtes responsable du master communication scientifique. Vous formez justement les étudiants à communiquer. Alors, je suis sûr que vous avez des leviers, des pistes à nous proposer.
Oui, je ne comptais pas botter en touche. Non, moi, ce qui me semble important à dire, sensibiliser, oui, mais comment on s'y prend et comment on le fait. Et notamment, faire attention à des discours autour de la sensibilisation qui viseraient à produire de la stigmatisation sociale. Pourquoi je dis ça? C'est qu'on a beaucoup parlé, notamment cet été, mais depuis quelques années, de l'émergence, l'arrivée de nouveaux pratiquants en montagne, quelle que soit d'ailleurs leur pratique. Cet été, vous avez sans doute dû entendre beaucoup parler de surfréquentation dans la montagne, sans que dans les discours médiatiques, politiques, on sache réellement qu'est-ce qu'est cette surfréquentation. Et que dans le même temps, vous entendez des socioprofessionnels qui disent « mais il n'y a pas assez de monde en montagne pour que moi je vive ». Compliqué. Et donc ça, c'est des choses que nous, chercheurs, on essaye d'objectiver pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe derrière et que finalement, c'est pas tant une surfréquentation qu'une concentration de public dans des endroits très précis et qui, du coup, va avoir notamment des impacts écologiques. Mais en même temps, est-ce que c'est forcément une mauvaise idée qu'un tourisme qui serait très diffus? Et si j'en reviens à la question de la sensibilisation, on dit beaucoup, oui, ces nouveaux pratiquants, il faut les éduquer, il faut les sensibiliser, ils savent pas ce que c'est la montagne, parce que nous on est des vrais montagnards, et eux ne le sont pas. Et souvent, ce qu'on voit de ces publics qui sont stigmatisés, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des gens qui sont issus de milieux populaires, de milieux qui n'ont pas l'habitude d'avoir accédé à la montagne, des gens qui sont souvent venus à la montagne par les réseaux sociaux, parce qu'ils ont vu des gens qui y sont allés, et voilà. Et donc, et en, ça fait le lien avec ce que dit Xavier, qu'il y a un vrai enjeu, notamment d'utiliser les communautés au sens large, qu'il peut y avoir des gens qu'on pourrait considérer comme influenceurs, pour expliciter comment on pratique, on traverse, on arpente la montagne. Mais en faisant attention aussi que nous, qui avons l'habitude d'arpenter la montagne depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, on n'a pas non plus tout le temps eu toujours des comportements hyper vertueux. Je vais prendre un exemple. Quelqu'un qui fait du ski de randonnée, je ne sais pas s'il y a des skieurs de randonnée du coup dans la salle, qui pratique par exemple le massif des Bauges, ou qui ont pratiqué le massif des Bauges quand il y avait suffisamment de neige, voilà, qui ont été par exemple au-dessus des cols en Bauges, vers la Dent d'Arcluse, la Combe aux Chevaux, pour peut-être celles et ceux qui connaissent, vous avez des zones de quiétude du tétra, dans laquelle vous n'êtes pas censé traverser à ski, et c'est balisé, hein. Tout le monde le voit, tout le monde le sait, c'est sur les topos, sur ski tour en ligne, il y a des panneaux du parc, il y avait même à une époque des gens en bas qui vous indiquaient, voilà, il faut contourner, voilà, et on peut l'éviter. Bon, ça c'est bien quand il n'y a pas grand monde qui est passé, mais une fois qu'il y a eu 4-5 skieurs qui ont fait le tour, à la descente dans la forêt de la petite pente à 35 degrés qui reste poudreuse, tout le monde passe dedans. Voilà. Et c'est pas les nouveaux pratiquants qui vont là, parce que le topo il dit pas ça, c'est les gens qui ont l'habitude de faire depuis montagne, et donc du coup c'est aussi d'être honnête dans la sensibilisation, et voilà, et pas éviter l'expérimentation, et essayer nous-mêmes d'être, avec nos limites aussi, le plus vertueux possible, et ne pas demander aux autres ce que nous-mêmes on n'est parfois pas en capacité, ou qu'on n'a juste pas envie de faire, parce qu'il y a plein de fois où on le sait, et là je suis sûr que toutes et tous vous y avez été confrontés, qu'on se dit, ah, allez, cette fois, on peut y aller, on va pas taper le tétra, et ça va.
Merci. Je vois que le temps, il avance à une allure de dingue. J'aimerais aborder quand même le troisième aspect que j'évoquais tout à l'heure en introduction, et vous demander un petit peu comment vous imaginez, vous quatre, la montagne de demain, et quelles sont les trajectoires possibles, et quels récits on peut mettre en place pour construire, on va dire, un futur désirable. Mais simplement, partant du concret, Xavier Bodin, comment les scientifiques voient la montagne dans 20 ou 30 ans ?
Alors, ça dépend de quels scientifiques on part. Il y en a qui modélisent le retrait des glaciers, par exemple, ils voient une montagne plus noire que blanche. Hein. Après, des collègues géographes ou sociologues, je pense qu'ils ont à cœur de favoriser cette idée d'une transition, en tout cas d'une évolution de nos façons de vivre sur ces territoires, qui soient peut-être moins dépendantes de dynamiques économiques trop surplombantes, dominantes, qui imposent, si je prends l'exemple du ski, du tourisme lié au ski, qui au bout d'un moment devient une forme de domination, on va dire, qui impulse dans le territoire une trajectoire de laquelle il est assez difficile de s'échapper, parce que tout est un peu pensé pour ça. Du coup, je pense qu'il y a, il y a un travail pour revenir à toutes les autres ressources que peuvent proposer des territoires de montagne. Elles sont touristiques, mais elles peuvent être aussi agricoles, elles peuvent être autour de l'artisanat, elles peuvent être autour de tout un tas de dynamiques d'emploi qu'on n'a peut-être même pas imaginées. Et à mon avis, c'est des territoires effectivement exemplaires, parce qu'ils ont ils restent avec cette... par leur configuration géographique, on va dire, c'est des territoires où le milieu naturel est encore nettement présent. Quoi. On peut pas mettre de côté. Voilà, les pentes sont là, il y a des lieux qui ne seront jamais aménagés. Et les dynamiques, on va dire, d'artificialisation qu'on voit beaucoup plus s'étendre dans les plaines, en montagne, elles sont empêchées en partie, en tout cas, par la vigueur des reliefs. Et du coup, quelque part, j'espère qu'à ce titre-là, ça, dans les décennies à venir, ça aidera aussi à reprendre un peu pied sur terre, à se remettre un peu en contact avec un monde dont on oublie un peu le fonctionnement naturel. Enfin, moi, je travaille sur les risques naturels et des catastrophes, par exemple, comme la Bérarde l'an passé, sont des catastrophes à l'échelle des temps humains, on va dire, mais à l'échelle des temps géologiques ou géomorphologiques, c'est juste la dynamique naturelle de ces milieux que de charrier des cailloux sous forme de grandes laves torrentielles tous les 100 ans ou 200 ans. Donc je pense que les montagnes ont cette capacité un peu à nous raccrocher à la terre, quoi, à son fonctionnement, ses forces, que ça soit l'inorganique ou le vivant.
Bon, du coup, je rebondis avec vous, Xavier Thévenard. Comment, en tant que pratiquant de la montagne, à la fois sur le ski, en tant que professionnel ou en tant que coureur, eh bien, vous imaginez les évolutions pour l'un et comme pour l'autre?
C'est difficile à dire. C'est vrai que le sport de compétition, en tout cas, je me dis, quelle va être son évolution dans un réchauffement planétaire à plus 3, plus 4 degrés? Je suis pas bien sûr que celui-ci soit une priorité dans la société. Il y aura certainement d'autres problèmes à gérer. Est-ce qu'on aura encore la possibilité de prendre un peu de temps pour pouvoir s'entraîner et préparer des compétitions? C'est pas si sûr.
Et est-ce qu'au moins on peut les rendre plus vertueuses? J'ai vu qu'il y avait des solutions qui étaient proposées et de privilégier, par exemple, sur les grosses manifestations sportives, de privilégier les inscriptions des personnes qui venaient plutôt en train qu'en voiture. Ouais. Est-ce que c'est une réalité ou ça reste encore des vieux pieux?
Oui, le marathon du Mont-Blanc, c'est un bel exemple pour essayer de diminuer l'empreinte carbone, mais là, on parle que sur le curseur carbone, il y a sans parler des autres choses à côté, mais oui, ça c'est des belles avancées. En tout cas, beaucoup devraient prendre exemple là-dessus sur des déplacements plus doux, du covoiturage, déplacements en train. C'est une bonne tendance. Après, je sais pas trop effectivement comment ça va évoluer plus tard. Le sport, déjà, on sait qu'au niveau de la contrainte liée aux énergies fossiles, 2050, on risque d'avoir beaucoup moins de pétrole qu'aujourd'hui. Est-ce qu'on aura encore la possibilité d'aller sur des événements avec des énergies fossiles? C'est pas bien sûr. Et je pense que la priorité, elle sera ailleurs. On fera du sport. Peut-être comme on le faisait avant, en 1950, le premier moyen de déplacement en France, c'était la marche à pied. Et donc on va peut-être retourner à faire du sport, mais différemment, mais pas comme on le fait actuellement. Et puis voilà, après, sur la pratique de l'hiver, le ski, effectivement, nous, dans le Jura, ça fait déjà bien, déjà quelques années qu'on a anticipé ça. Pas anticipé, mais on a compris que l'activité, tout ski, c'était plus possible économiquement. Donc plutôt tourner sur des choses 4 saisons, avec accès sur du VTT, de la randonnée, voilà.
Je rebondis, Cécile Trahan, on parle beaucoup aujourd'hui du tourisme 4 saisons, est-ce que c'est une piste réelle d'adaptation au changement climatique, déjà dans nos régions de moyenne montagne?
Oui, tout à fait, nous c'est vraiment le sujet qu'on travaille, le multisaison. Donc moi je voudrais simplement peut-être citer quelques exemples. Par exemple, la porte de Saint-François de Sales, qui est une porte du plateau de Savoie-Grand-Revard, et sur laquelle on voit directement les impacts du changement climatique, puisque c'est la porte qui est tout le temps fermée maintenant, enfin régulièrement fermée, on va dire, et ça devient de plus en plus compliqué, alors qu'il n'y a pas beaucoup de mètres d'altitude de décalage. Mais il y a ces quelques mètres et aussi une exposition un peu différente. Et on voit là aussi que rapidement on peut basculer dans des contextes difficiles. Sur cette porte, Madame le maire de Saint-François a fait un super projet. Donc elle a essayé de faire de la réversibilité. Et donc elle a créé 3 sentiers thématiques. Un jeu nature et surtout un espace pédagogique forestier dans lequel on apprend aux enfants et aux adultes le travail qui est fait dans la forêt de Saint-François et dans les forêts d'une manière générale. Et donc ça, c'est vraiment un bel exemple de diversification pour essayer de maintenir une activité sur cette entrée du plateau de Savoie-Grand-Revard quand malheureusement la neige n'est pas présente. Voilà, ça c'est le premier élément. Dire aussi que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai que nous on a quand même la chance d'avoir le ski nordique à Savoie-Grand-Revard. On a aussi donc de l'alpin et puis aussi sur Margeria, maintenant, il faut plus que je dise Aillon. Et que c'est aujourd'hui, il faut arriver à être à s'adapter très rapidement. Et en fait, dès qu'il y a de la neige, je pense, sur nos territoires, il faut que tout soit en ordre pour qu'on puisse tout de suite être réactif. Et ça, c'est vrai que c'est très compliqué, parce que socialement, dans des emplois, demander à des gens d'être prêts du jour au lendemain pour faire du damage ou être présent sur pour vendre des forfaits, c'est compliqué. Ça sera un problème parce qu'il faudra trouver des complémentarités en fait sur ces emplois pour maintenir des emplois à temps complet. Sur Aillon Margeria, donc sur la partie dont on a parlé tout à l'heure, donc anciennement Aillon 1000, déjà je voudrais dire qu'aujourd'hui la commune a décidé de modifier le nom et de donner de renommer le Val d'Aillon. Donc c'était en fait l'ancien nom qui était avant. Donc je pense que ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire voilà qu'on va renaturer le site et on va réfléchir à comment on peut y faire des activités multisaisons. Quand il y a de la neige, on pourra faire de la raquette, et puis quand il n'y en aura pas, il faudra faire de la randonnée. Et voilà. Et après, ce que je pense, moi, c'est qu'il faut faire quand même très attention. Ce qui me fait un peu peur des fois dans la diversification, c'est que j'ai peur qu'on transforme certains territoires un peu en avec trop d'activités à caractère ludique, si je puis dire.
Bah, du coup, ça me renvoie aux imaginaires. Et là, c'est la question pour le sociologue, hein, c'est-à-dire comment on va se représenter ou comment on essaye aujourd'hui de se faire représenter la montagne. Avant, l'imaginaire, c'était le tout ski, c'était tout blanc. C'est plus vraiment le cas. Et donc, quelles images on produit et quelle force va avoir aujourd'hui ou plus tard la montagne?
En rebond sur la question et sur ce qui a été dit avant, il faut faire attention aux fausses bonnes idées qui sembleraient spontanément permettre de régler le problème en un claquement de doigts. L'idée du moment, là, qu'on entend énormément beaucoup, le tourisme 4 saisons, la diversification touristique, qui résolverait de facto tous les problèmes liés à la fin du tourisme ou à la mise en crise du tourisme de neige. Même dans les territoires de montagne les meilleurs, qui ont le mieux travaillé la diversification touristique, si je raisonne en termes de chiffre d'affaires, ça ne marche pas. C'est-à-dire que du coup, ça ne permet pas de permettre ces emplois de pouvoir du coup se maintenir, sans prendre en considération les effets indirects de tout ça. Donc ça, c'est quand même le premier point. Et du coup, l'enjeu que ça pose, c'est quelle place du tourisme, et du tourisme globalement, dans nos territoires de montagne. Et aujourd'hui, on voit d'ailleurs, quel que soit d'ailleurs à peu près le territoire de montagne, c'est qu'aujourd'hui, on raisonne énormément dans ces territoires sur l'idée que les territoires doivent être attractifs, et doivent être attractifs pour les touristes et pour le tourisme. Et un des enjeux aujourd'hui, c'est de remettre, en tout cas c'est une formule que des collègues géographes utilisent, de remettre le tourisme à sa place. C'est-à-dire que le tourisme n'est plus une fin en soi, mais devient ou redevient une condition qui permet le fait de pouvoir habiter en montagne et qui nous évite tous les effets indirects qu'on ne pense pas forcément et qui, à 5 ans, 10 ans, 20 ans, sont un vrai problème, et j'en prends que un pour l'illustrer, qui est la question du foncier. Et du foncier avec les enjeux agricoles, mais aussi du foncier pour pouvoir habiter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez énormément de territoires de montagne, notamment dans les Alpes, là je vais parler dans les n'importe quelle vallée et haute vallée alpine, qui est le prix au mètre carré pour pouvoir vivre dans les communes de montagne. Et le prix au mètre carré explose, lié à l'activité touristique, qu'elle soit été ou hiver, et notamment au lit et à la location touristique. Alors, on va dire, oui, c'est la faute des grands méchants Airbnb. Certes, ils participent au phénomène, mais c'est pas uniquement ce truc-là. Et quel effet ça a? C'est que ça limite, empêche la possibilité à de nouvelles générations, à des jeunes, par exemple, si je prends le classique du couple avec des enfants, de pouvoir venir s'installer, de pouvoir venir développer de nouvelles activités, de pouvoir permettre aux écoles de pouvoir continuer à exister et d'avoir des services publics qui puissent fonctionner. Et en fait, on a une sorte de serpent comme ça qui se mord la queue et qui fait qu'on a énormément aujourd'hui, tout à l'heure je parlais d'enjeux de décroissance économique, mais de territoires de montagne qui sont en décroissance démographique. Et pas parce que ces territoires, il n'y a pas des gens qui veulent venir y habiter, mais parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus économiquement y venir à cause de la place trop importante du tourisme. Donc, si, pour répondre à la question, l'idée, c'est de se dire quelle montagne on veut dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Est-ce qu'on veut une montagne vivante, habitée à l'année, avec des gens qui habitent et qui travaillent sur cette montagne, où on veut que nos montagnes, ça soit seulement ou principalement des endroits où des populations plutôt riches, plutôt fortunées, viennent se distraire, viennent de profiter de cette nature qui se représente et où on a aménagé, organisé les territoires pour eux et elles. Alors oui, ça permettra toujours à une petite partie de la population de pouvoir exister et vivre. Mais ça, c'est pas du tout la même destination de ces territoires. Et ça, c'est pas nous quatre ici, ce n'est pas moi qui vais le décider. Ça, c'est une vraie question collective. Ça, c'est une vraie question politique, une vraie question démocratique. Et c'est en gros la question qu'on doit se poser et qu'on doit trancher dans les années, dans les mois ou dans les années à venir. Mais rapidement. Et pourquoi rapidement ? Parce que le changement climatique et les effets du changement climatique qu'on évoque depuis tout à l'heure, ils n'attendent pas que les humains et que les sociétés humaines s'adaptent et se disent « Ah, c'est vrai qu'on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, on ne sait pas trop comment on va faire. » Mais chaque année qu'on perd pour s'adapter, on ne la rattrapera pas. Parce que tout ce qu'on peut observer, c'est déjà trop tard.
Je vais revenir sur la question qui était posée au début sur le sujet, c'est quel défi pour l'avenir. Je reviendrai, ça sera le mot de la fin de chacun tout à l'heure, c'est quel est vous le défi prioritaire. Mais avant ce mot de la fin, c'est le moment d'échanger avec le public. Je pense que là on vient d'ouvrir un certain nombre de sujets pour à débattre, et donc je vais passer le micro qui sera le bâton témoin, comme ça ne parleront que ceux qui ont le micro, ça sera plus facile s'il y en a qui ont des questions, bien évidemment. Alors je pense que il y a des questions.
Simplement pour rebondir sur la dernière intervention que j'ai trouvée très intéressante sur l'aspect foncier, il ne faut pas oublier que notre modèle de tourisme alpin n'était pas vraiment un projet touristique, mais souvent un projet immobilier avant le projet touristique. Et je pense que c'est un des grands... Une des grandes questions qui est à l'origine de beaucoup de maux de notre tourisme alpin.
Ah, oui, je ne savais pas si c'était une réflexion ou une question. Oui, aujourd'hui, la question aujourd'hui et même hier, la question immobilière a toujours été une question assez centrale. Ça, c'est assez évident. Et je le dirais d'autant plus... Alors là, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais très souvent, on a le discours de Valéry Giscard d'Estaing en 78 à Valouise qui arrête les plans neige, qui sont en gros les grands plans d'aménagement de la montagne avec la création des stations de sport d'hiver, du coup, dans les Alpes. Et il y a ce fameux discours qui est fait dans le parc national des Écrins, où vous avez le président de la République de l'époque qui dit... On va arrêter d'aménager la montagne, c'est fini, faut plus s'y prendre comme ça et on fait autrement. On était, l'ordre de grandeur, c'était quelques centaines de milliers de lits. Depuis cette époque-là, on n'a jamais autant construit et aujourd'hui on raisonne en millions de lits. Voilà, donc ça va dans votre sens. Et du coup, l'enjeu que ça pose aujourd'hui, et il y a déjà des communes qui ont pris des décisions de geler les projets d'aménagement d'immobilier, je pense notamment... Ça, c'est un autre débat. Mais la question que ça pose ici pour le futur, c'est qu'est-ce qu'on va faire ensuite de tous ces ensembles immobiliers est-ce que ça va devenir et rester des friches? Voilà. Donc ça, c'est des vraies questions du coup pour le futur. Mais ce que moi, si on me demandait mon avis, il faudrait aujourd'hui avoir un moratoire qui gèle la totalité des nouveaux aménagements immobiliers. À des fins touristiques en montagne. On a aujourd'hui suffisamment de lits touristiques pour faire fonctionner les stations de sport d'hiver. Le problème, il n'est pas sur la problématique des lits. Alors après, une fois qu'on dit ça, il faut savoir ce que ça implique. Ça veut dire que ça va non plus aussi avoir du coup des effets économiques et sociaux pour tous les artisans des vallées alpines dont le modèle économique de leur entreprise est de travailler en permanence à cet enjeu-là. Donc, alors après, il y a une solution toute faite qu'on pourrait dire, mais du coup, là, ça va demander l'accompagnement des pouvoirs publics, c'est de se dire, bon, plutôt que de construire du nouveau, si on rénovait toutes nos passoires énergétiques que nous avons en station, il y a du boulot pour les décennies qui viennent. Mais ça ne peut se faire que si, à un moment donné, il y a un choix politique et des politiques publiques, alors là, on serait peut-être plutôt au niveau régional, qui irait dans ce sens.
Si on regarde les évolutions... Sur les 20 dernières années, des outils de politique publique qui visaient à limiter ou à disons, traiter de manière raisonnable les aménagements en montagne, ils ont été affaiblis considérablement sous la pression d'un certain nombre d'élus. Voilà, on ne va pas les citer. Mais...
Oui, bonsoir. Alors moi, juste une réflexion par rapport à ce que vous avez dit, Monsieur Chambru. Moi, je suis originaire d'une petite station de ski dans le Val d'Arly, et en 2011, on a fermé une école et on a agrandi le cimetière. Donc vous voyez un petit peu, c'est pour que les touristes, enfin, surtout ceux qui ont une résidence secondaire, c'est quand même plus sympa d'être... finir sa deuxième vue autour, enfin, avec un beau panorama que dans un cimetière, dans une grande ville. Sinon, j'avais une question. Moi, c'est par rapport à la problématique de l'eau, parce que il me semble qu'en Savoie, le réchauffement climatique, en fait, c'est moins de neige, mais beaucoup plus d'eau. Il me semble que sur une année glissante, moi, ce que j'avais entendu dire du réchauffement climatique, c'est que la Savoie, le problème, c'est que avec le réchauffement climatique, on aura de plus en plus d'eau. Alors certes, on va peut-être souffrir on souffrira de sécheresse l'été, mais il me semble que sur une année cumulée, le réchauffement climatique, ce sera beaucoup plus d'eau. Moi, il me semble qu'on a maintenant 3-4 jours avec des pluies diluviennes qu'on n'avait pas, enfin, il me semble qu'on ne connaissait pas avant. Est-ce que vous pouvez me confirmer que, contrairement aux Pyrénées-Orientales, où là, on sait qu'il y a des gros déficits d'eau depuis des années, est-ce qu'en Savoie, ce sera pas un problème, c'est qu'on en aura beaucoup sur des périodes très courtes qui engendreront des glissements de terrain, des fermetures de routes, etc. Merci.
Alors, je ne suis pas un spécialiste de climatologie ou d'hydrologie. Par contre, globalement, les modélisations qui essaient de prévoir pour le futur l'évolution du climat, elles sont assez nettes sur les températures et sur les précipitations. En général, il y a des incertitudes assez fortes. Et c'est assez difficile de voir des tendances à quelque échelle spatiale que ce soit en général. Par contre, là où en général les climatologues, météorologues s'accordent, c'est sur le fait que ça va amener à des précipitations plus intenses. Donc il n'y aura pas forcément des cumuls plus élevés sur l'année. Par contre, il pourrait y avoir des cumuls de précipitations par épisode ou par sur plusieurs jours qui sont plus fortes, enfin des intensités de pluie plus grandes, qui du coup effectivement nécessairement amènent à dans les milieux de montagne probablement à une intensification des phénomènes style glissement de terrain ou lave torrentielle. D'autant plus que on va aussi probablement aller vers des intersaisons où neige et pluie coexistent, et quand de la pluie tombe sur de la neige, on augmente considérablement la quantité d'eau qui s'infiltre ou qui s'écoule à la surface, et donc probablement avec des débits dans les cours d'eau plus importants.
Nous avons éventuellement le temps de prendre une dernière question avant les conclusions.
J'avais une réflexion par rapport à la démocratie, parce que l'exemple typique, c'est quand même les JO de 2030, quoi. On se dit, tout le monde est au courant. Tout à l'heure aussi, madame, vous parliez du PCAET, qui est un outil super, sauf que dans la réalité, dans le chapitre de la protection du foncier, y a en effet la protection du foncier, et en même temps... Il y a le projet de la ZAC 3 où on propose de bétonner 20 hectares de terres agricoles. Et là, voilà. Et il y a un collectif qui se mobilise, ça fait des années, et on n'est pas, enfin, ils ne sont pas écoutés.
Oui, après, j'entends ce que vous dites. Je ne connais pas précisément tout le dossier, mais après, je pense qu'il faut toujours quand même que les citoyens aient ces actions, et que j'espère que. J'ose espérer qu'à terme, elles sont quand même entendues par les politiques. Et ensuite, dire que quand même un PCAET, il a été... je faisais partie du comité de pilotage. Il a été suivi de manière très importante. Et il y a eu quand même une gouvernance avec les socioprofessionnels, les acteurs, les institutionnels. Enfin, voilà, il y a eu quand même une grosse participation. Donc, je pense que... tout le monde est aujourd'hui conscient, et que là, la gouvernance a été quand même, il me semble, assez bien partagée.
On arrive au terme de ces échanges, de ces débats, et donc je souhaiterais qu'il y ait un message à emporter à l'issue de cette rencontre, et que chacun peut-être priorise son défi pour l'avenir en termes de transition montagne. Est-ce qu'on commence par vous, Xavier Bodin ?
Il y a un coup de moi. Bon, on va dire, je sais pas, ma priorité, ça, quelque part, et c'est un peu ce que le travail que je mène dans mon travail, c'est quelque part de politiser un peu plus nos vies, on va dire, notre rôle dans la société, comprendre à quoi on participe par notre travail, par nos loisirs, par les décisions qu'on prend, comprendre comment on peut s'organiser collectivement. Et ce d'autant plus que, contrairement peut-être à ce que tu disais, Michael, tout à l'heure, il me semble que l'enjeu, il n'est pas que climatique. Certes, l'évolution climatique en cours, plus tout le reste, l'effondrement de la biodiversité ou les impacts multiples de ce phénomène purement physique et naturel, selon moi, ils sont à ne pas dissocier de l'évolution de nos sociétés qui sont traversées par des tensions sociales, politiques. Et je pense que c'est à ça qu'il faut qu'on s'attelle à faire face. Et quand on en fait face à l'échelle d'un territoire comme les vallées de montagne, où c'est peut-être une entité spatiale qui est pertinente pour s'organiser collectivement et quelque part lutter collectivement contre des dynamiques social à nouveau, politique, économique, les JO de 2030, c'est pas le changement climatique, les JO de 2030, c'est des décisions qui sont prises par certains et qui entraînent les territoires encore plus loin dans l'enfermement touristique pour ce qui concerne cet aspect spécifique.
Cécile Trahan, quel serait le défi prioritaire?
Le défi prioritaire, moi je pense que c'est que en fait on arrive à trouver des solutions pour que les gens puissent continuer à profiter et à vivre sur nos territoires, que ça soit acceptable pour tous et pour toutes. Et alors c'est sûr que c'est pas facile. En tout cas, moi, à Grand-Chambéry, j'essaie de travailler quand même avec l'Université Savoie-Mont-Blanc parce que je pense qu'on a besoin aussi d'un point de vue scientifique qui manque peut-être parfois aux décideurs et aussi un point de vue de la jeunesse qui peut nous apporter à nous qui sommes des politiques, peut-être d'autres visions, d'autres idées pour nous faire sortir un peu aussi de notre zone de confort.
Xavier, est-ce que l'enjeu, c'est la jeunesse?
Sans doute.
Parce que vous êtes très suivi par la jeunesse, hein, c'est pour ça que je vous pose cette question.
Ouais. En tout cas, c'est d'essayer de faire, je pense, changer les codes de la société, les imaginaires, voir un peu différemment, essayer de dire le déplacement en vélo, c'est vertueux, c'est quelque chose de cool, qui est à la mode. Et puis, quand on se déplace en gros SUV dans une ville, c'est ringard, ça n'a pas de sens. Et en gros, c'est d'arriver à changer ça, et ça c'est un travail de longue haleine mais qu'on peut clairement arriver à faire, et puis une fois que ça fera effet boule de neige et qu'on ira tous dans plus de simplicité, plus de sobriété, je pense que le monde ira bien. Dire que en fait la simplicité c'est cool quoi, en fait la sobriété c'est cool, ça c'est à la mode quoi, et changer un peu le truc, pas moins de gadgets, moins pas de IA par exemple, essayer de il y a plein, un gros boulot, quoi.
Et Michael, pour ce mot de la fin, et je pense que Cécile avait amorcé quand même un sujet qu'on n'a pas trop abordé, mais c'est cette relation entre le politique et le scientifique. Est-ce que c'est vraiment une piste qu'il faudrait peut-être renforcer à l'avenir?
Je pensais pas que je m'attendais pas à cette question.
Non, mais tu pourras répondre aussi.
C'est toutes les pistes du coup sont bonnes à prendre. Après, le salut, la solution ne deviendra pas de la part des scientifiques, des chercheurs. Et s'il y a peut-être un lien encore plus à retravailler, c'est le lien entre le politique et les habitants, les habitantes ou les citoyens, les citoyennes, vous l'appelez comme vous voulez. Avec ce que j'y évoquais tout à l'heure, c'est de se dire comment aujourd'hui on décide d'organiser cette bifurcation de notre modèle de nos modèles de développement territoriaux. Le choix n'est pas de se dire est-ce qu'il faut organiser cette bifurcation ou non. Cette bifurcation s'impose du coup déjà à nous. Et donc s'il y a un lien plus fort, plus étroit à tisser, il est comment on l'organise. Et c'est important. Et comment on l'organise tout en étant en désaccord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce serait faux de dire que dans une vallée, dans un territoire, tout le monde il est d'accord sur comment il faut faire. On n'est pas d'accord, et c'est pas grave, c'est bien de ne pas être d'accord. Le désaccord, c'est le conflit, c'est le débat, et le débat et le conflit, c'est la démocratie. Donc ensuite, la question, c'est comment, à partir de ce désaccord, on va vers quelque chose. Et vers quoi on va? Ben, c'est là que les scientifiques, ils peuvent être utiles, parce qu'ils peuvent essayer d'objectiver à partir de données, on disait climatique, écologique, mais aussi économique, sociale, poser des enjeux et de se dire, un peu ce que j'essayais de dire dans l'intervention, on peut y aller comme ça. Voilà. Ensuite, comment on le fait? Eh ben, c'est dans le jeu politique au sens noble du terme. Et quand parfois, par exemple, les politiques qui sont élus, ben, ils vont à contresens de ça, eh ben, il y a des mobilisations sociales, écologiques, il y a des mouvements d'opposition qui, et on le voit beaucoup en montagne, et pour faire un lien avec l'ouvrage dont tu parlais, ben, parfois c'est parce que vous avez des habitants et des habitantes qui décident de se mobiliser contre un projet d'aménagement d'une commune, d'une collectivité, d'un aménageur, qui va à l'encontre d'ailleurs de la législation environnementale, que la justice reconnaît quelques années après, mais heureusement qu'à un moment donné, des citoyens et citoyennes se sont mobilisés parce que les élus politiques ont voulu, ou les aménageurs ont voulu aller vite. Donc c'est toute cette complexité-là qu'il faut arriver à mettre en mouvement. Et je pense aussi ce qui est important dans ça, c'est se dire qu'on n'a pas les uns ou les autres la solution prête, le modèle clé en main à imposer. Et donc, si on doit inventer quelque chose de nouveau, eh ben, on peut aussi le construire à partir du coup de ce qu'on n'est pas d'accord et éviter les pièges, la polarisation, je dirais, style polarisation des années 80, et si je remonte dans mes montagnes, est-ce qu'on est pour ou contre le ski? Je veux dire, aujourd'hui, le débat, c'est pas être pour ou contre le ski. Ça ne me permet pas du coup d'avancer. Et je le dis d'autant plus qu'on peut très bien tenir un discours et de dire, à un moment donné, il va falloir faire cette bifurcation radicale, elle va être radicale, elle va être difficile, elle va être compliquée, il va falloir l'accompagner socialement, tout en espérant pouvoir faire du ski et continuer à pouvoir faire du ski le plus longtemps possible, du mois de novembre au mois de mai. Sauf que si, et sans doute dans 20 ans, on pourra encore faire du ski du mois de novembre au mois de mai. Sauf qu'on ne fera plus du ski comme on le fait aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous faites du ski de randonnée, par exemple, bah, le ski de randonnée, dans 20 ans, dans nos massifs, ça consistera à faire 800 mètres avec les skis sur le dos, en faisant de la rando, et vous skierez les 800 mètres d'après. Et ça sera devenu cool, parce qu'on aura travaillé, c'est le lien culinaire, on aura fait ce truc-là. Et dans le même temps, bah, peut-être qu'on aura réussi à faire cette bifurcation-là. Parce que si on n'y arrive pas, ça va être sacrément le bordel pour la majorité de la population. Alors il y a toujours une petite partie de la population qui s'en sortira très bien, celles et ceux d'ailleurs qui s'en sortent le mieux aujourd'hui. Mais collectivement, pour la majorité, ça va être très compliqué, et je ne parle même pas des impacts paysagers, environnementaux, écologiques pour nos territoires. Donc globalement, la majorité des habitants et des habitants, la majorité de la population de ces vallées alpines, on a toutes et tous un intérêt commun. Donc essayons d'avancer vers ça.
Eh bien, merci beaucoup pour ce mot de la fin. Merci infiniment à vous quatre. Merci à vous pour vos questions, votre attention, et merci pour toutes ces pistes de réflexion sur ce sujet qui est à la fois sensible et complexe. Merci à vous. Les festivités autour des 30 ans de la Galerie Eureka continuent encore demain avec deux spectacles, un grand quiz et des visites spéciales de ce nouvel espace. Et puis le prochain rendez-vous entre midi et science aura lieu sur le burn-out. Je ne sais pas pourquoi on a suivi ce sujet-là. Et donc vous avez bien vu, le programme est à la sortie. Merci à vous et bon week-end.